Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Silence dans les champs » est une enquête journalistique de Nicolas Legendre consacrée au système agro-industriel breton. Fruit de 7 années de travail et de près de 300 témoignages, le livre examine la transformation rapide de la Bretagne rurale depuis les années 1960, lorsque la modernisation agricole et la recherche de volume ont remodelé les exploitations, les coopératives, les filières de production et les rapports sociaux. Issu lui-même d'un milieu paysan breton, le journaliste ne propose ni un essai technique sur les politiques agricoles, ni un simple réquisitoire environnemental. Il reconstitue les mécanismes de pouvoir qui, selon les personnes rencontrées, organisent la dépendance économique, réduisent la capacité de contestation et entretiennent le silence autour des dommages humains et écologiques. Les récits de paysans, salariés, responsables locaux et autres observateurs donnent une dimension concrète à cette analyse. Le propos central porte sur le coût social du productivisme, sur la concentration du pouvoir et sur les conditions qui rendent la parole critique difficile dans un territoire fortement structuré par ses filières agricoles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la modernisation bretonne relue comme une concentration du pouvoir économique. Le livre replace le développement agro-industriel breton dans une histoire longue de modernisation accélérée. Après la Seconde Guerre mondiale, produire davantage apparaît comme une réponse à des besoins alimentaires, à la recherche de revenus et à une promesse de progrès collectif. Nicolas Legendre montre toutefois que cette orientation ne se limite pas à un changement de technique. Elle organise une concentration progressive des moyens de production, de la transformation, de la distribution et de la décision. Les petites fermes doivent investir, se spécialiser et accroître leur volume pour rester intégrées aux filières. Cette logique peut rendre les exploitants dépendants de débouchés, de crédits, de normes et de structures collectives devenues de grands acteurs industriels. Le livre invite ainsi à distinguer la coopération, conçue à l'origine pour mutualiser des intérêts paysans, de la puissance économique que certaines organisations peuvent acquérir au fil des décennies. La Bretagne est étudiée comme un cas particulièrement révélateur, non comme une exception isolée. Son poids dans les productions animales et agroalimentaires rend visibles les effets d'un modèle qui associe croissance, emploi et performance à des coûts souvent reportés sur les travailleurs, les exploitants fragiles et les milieux naturels. Cette lecture historique évite de réduire la crise agricole à des choix individuels ou à une opposition simpliste entre tradition et innovation. Deuxièmement, endettement, volume et dépendance dans le quotidien des exploitants. Une dimension essentielle de cette enquête concerne la manière dont l'impératif productif pénètre la vie économique des fermes. L'augmentation des volumes requiert souvent des bâtiments, du matériel, des animaux, des intrants et des équipements coûteux. Lorsqu'une exploitation est engagée dans ce cycle, sa marge de décision peut se réduire car elle doit assurer des remboursements et maintenir une production régulière. Le livre ne soutient pas que tous les agriculteurs vivent une situation identique, mais il met en évidence un mécanisme structurel plus la viabilité financière dépend de volumes élevés. Plus les marges pour ralentir, diversifier ou contester les règles de la filière deviennent étroites, les aides publiques peuvent amortir certaines difficultés sans modifier nécessairement cette architecture de dépendance. Legendre examine donc la distance entre le récit du chef exploitation autonome et la réalité de producteurs insérés dans des chaînes dont les paramètres majeurs leur échappent. Cette analyse donne aussi un sens social à la disparition des fermes. Il ne s'agit pas seulement de statistiques ou de rendements, chaque cessation traduit une recomposition des campagnes, avec moins de paysans indépendants et davantage de fonctions salariées ou techniques liées à de grands ensembles. Le livre pousse à interroger qui assume les risques, qui capte la valeur et qui définit les orientations agricoles. Troisièmement, omerta et violence comme instrument de maintien du système. Le titre désigne un objet qui dépasse le silence ordinaire ou la discrétion professionnelle. À partir des témoignages recueillis, Nicolas Legendre décrit un climat où la critique du modèle dominant peut exposer à des pressions, à la mise à l'écart, à des menaces ou à des formes de sabotage. Les mots de féodalité, de mafia ou de violence reviennent dans les sources rapportées par le livre pour exprimer une perception de rapport de force localement enraciné. Ils ne constituent pas des qualifications judiciaires générales, mais signalent le sentiment de vulnérabilité de personnes qui dépendent souvent des mêmes réseaux pour vendre, travailler, obtenir un mandat ou conserver une place dans leur communauté. La force de cette partie réside dans le lien établi entre pouvoir économique et contrôle social. Une filière peut être efficace sur le plan industriel tout en rendant la contradiction coûteuse pour ceux qui y vivent. Le silence devient alors un mécanisme de protection individuelle, mais aussi une condition de reproduction du système. En donnant place aux paroles anonymes comme aux voix identifiées, L'enquête montre les difficultés méthodologiques et humaines de documenter ces réalités. Elle rappelle aussi que les conflits agricoles ne peuvent être compris uniquement à partir des prix ou des réglementations. Ils concernent la sécurité, la réputation et la possibilité même de parler publiquement. Quatrièmement, les dommages écologiques reliés aux choix de production intensifs. Silence dans les champs relie les rapports de pouvoir aux effets environnementaux du productivisme. L'altération des écosystèmes, la pression exercée sur les sols et les cours d'eau, ainsi que la place des pesticides et des effluents ne sont pas traités comme des accidents séparés. Elles sont mises en relation avec un modèle fondé sur la spécialisation, la intensification et la recherche de rendements élevés. Cette approche est importante car elle évite de présenter la pollution comme la seule conséquence de comportements individuels. Les exploitants agissent dans des cadres économiques et techniques qui valorisent le volume, la standardisation et la rapidité des flux. Pour autant, situer les contraintes structurelles ne signifie pas effacer les responsabilités des organisations, des décideurs ou des pouvoirs publics. Le livre conduit plutôt à examiner la répartition de ces responsabilités tout au long de la chaîne. La question alimentaire est également présente. L'essor de l'agro-industrie accompagne une transformation des produits et une généralisation des aliments transformés. Ainsi, le problème ne concerne pas seulement les territoires ruraux. Il relie les conditions de production, la santé des milieux, le travail salarié et les habitudes de consommation. Cette articulation donne au livre une portée nationale. Les bénéfices de prix accessibles ou de produits abondants ne peuvent être séparés des coûts écologiques et sociaux supportés en amont. En dernier lieu, une enquête de terrain qui restitue des voix rarement entendues. La spécificité du livre tient autant à sa méthode qu'à sa thèse. Nicolas Legendre rassemble près de 300 témoignages au cours de 7 années, ce qui lui permet de croiser les positions de paysans, salariés, cadres des coopératives, élus, syndicalistes et autres acteurs du territoire. Cette pluralité ne transforme pas le récit en inventaire neutre, elle sert à faire apparaître des régularités dans des expériences diverses, notamment autour de la peur de parler, de la dépendance économique et du sentiment de dépossession. Le choix de l'enquête au long cours est décisif dans un sujet où les sources peuvent hésiter à se rendre publiques et où les effets du modèle se construisent sur plusieurs générations. Le livre associe donc documentation, scènes de terrain et paroles recueillies, sans se limiter aux données de production ou aux discours institutionnels. Cette approche explique son impact dans le débat public et sa réception comme un travail de journalisme d'investigation. Elle a aussi des limites inhérentes, des témoignages décrivent des vécus et des rapports de force, sans pouvoir à eux seuls épuiser la diversité de toutes les exploitations bretonnes. Mais Legendre ne prétend pas fournir une moyenne statistique. Il rend visible ce que les indicateurs économiques masquent souvent, soit les effets concrets des structures de pouvoir sur les personnes et sur leur capacité à choisir leur avenir. En conclusion, Silence dans les champs intéressera les lecteurs qui cherchent à comprendre les crises agricoles au-delà des images de fermes, des débats ponctuels sur les prix ou des oppositions rapides entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique. Il sera particulièrement utile aux citoyens concernés par leur alimentation, aux étudiants en journalisme, sciences sociales ou politique publique, ainsi qu'aux professionnels qui souhaitent saisir les rapports entre organisation des filières, conditions de travail et atteintes écologiques. Son apport intellectuel est de relier ces dimensions sans les confondre. Le livre montre comment les contraintes économiques, les structures de pouvoir locales, les transformations du travail et les dégâts environnementaux peuvent se renforcer mutuellement. Sa lecture apporte aussi un repère pratique pour évaluer les discours sur la souveraineté alimentaire, la compétitivité ou la modernisation. Il invite à demander qui décide, qui supporte les risques, qui bénéficie de la valeur créée et quelle voix reste absente du débat. Par rapport à de nombreux ouvrages sur agriculture intensive, il se distingue par son ancrage territorial précis et par le temps consacré à recueillir des paroles de terrain. La Bretagne y devient un observatoire dense des contradictions du modèle agro-industriel français. Plutôt que de proposer une solution unique, Nicolas Legendre documente les mécanismes qui rendent le changement difficile, tout en laissant apparaître des pistes évoquées dans le débat agricole, telles que la diversification, les pratiques biologiques ou agroforestières. Cette rigueur d'enquête donne au livre une portée durable. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Legendre, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!